RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel. 2h à Washington et Atlanta. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Joe Biden ne rassure pas.
Un premier débat télévisé raté pour le président américain face à son adversaire pour la présidentielle, Donald Trump, qui a profité des confusions du chef de l'État. Dans ce journal également, les dirigeants européens qui proposent des noms pour occuper les postes à responsabilité des institutions européennes. On sera en France où la campagne pour le premier tour des législatives s'achèvera à minuit. En Iran, c'est aujourd'hui qu'on vote pour la présidentielle après la mort d'Ebrahim Raïssi le mois dernier. Et puis l'actualité, c'est aussi l'organisation d'un dialogue national qui prend forme en Afrique du Sud, dans l'attente toujours d'un gouvernement d'union nationale.
Migration, inflation, avortement, climat, économie, autant de thèmes qu'ont abordé Joe Biden et Donald Trump hier soir pour leur premier grand débat télévisé.
Mais avec un petit peu d'avance. En été, d'habitude, c'est plutôt à l'automne, une fois les conventions d'investiture démocrate et républicaine passées, mais pas cette fois. Ils n'ont pas attendu d'être officiellement investis, même s'ils sont très bien partis pour. Ce débat sur CNN, vous l'avez suivi pour nous, Guillaume Nodin, correspondant permanent de RFI à Washington. Un petit peu plus d'une heure et demie d'échange et tout ce qui était à la fois prévisible et redouté ces produits, Guillaume.
Oui, d'abord des accrochages, deux hommes qui se traitent mutuellement de criminels, condamnés par la justice pour l'un ou qui pourraient être poursuivis dès la fin de son mandat pour l'autre. Ils s'accusent mutuellement d'être le pire président de l'histoire. Nul perdant, pleurnichard, les noms d'oiseaux volent. D'un côté, un Donald Trump qui enchaîne les affirmations péremptoires sur à peu près tous les sujets, qui refuse de s'engager à reconnaître le résultat de l'élection de novembre, quel qu'il soit. De l'autre, un Joe Biden qui semble dépassé par l'aplomb de son adversaire, qui explique qu'il n'a jamais entendu autant d'âneries et qui essaie de répondre au flot de contre-vérités, mais surtout un Joe Biden qui le dit mal d'une voix faible et éraillée, en ayant parfois du mal à structurer ou à finir ses phrases, ce que Donald Trump n'a pas manqué de relever, mais avec une certaine retenue. Et c'est presque plus cruel.
Oui, là, j'ai les capacités cognitives des candidats. C'était l'un des enjeux de ce débat.
Ouais, et là, ils ont tenté de rassurer, mais pas assez, mais assez maladroitement. Ce que vous entendez, c'est un Joe Biden qui défie Donald Trump dans un concours de conduite ou même au golf pour peu que son adversaire se sente capable de porter son sac avant que le républicain mette fin à cet échange un peu gênant en suggérant d'éviter les enfantillages.
Bon, il faut bien le dire, Guillaume, Joe Biden n'a pas rassuré.
Non, surtout dans son propre camp qui, pendant le débat, dans l'urgence, devant la prestation, a fait savoir que le président a pris froid ces derniers jours. Sa propre vice-présidente Kamala Harris est bien obligée d'admettre qu'il a été lent au démarrage, je cite, mais elle assure qu'il a fini fort. On a connu plus enthousiaste. C'est dire si le président inquiète. Certains commentateurs, y compris des proches du camp démocrate, évoquent ouvertement la question d'un plan B, trouver un autre candidat d'ici à la convention démocrate fin août. Certains commentaires sentent vraiment la panique.
À Guillaume Nodin, en direct de Washington, et Joe Biden, lui, a réagi un petit peu après le débat. C'était lors d'une halte dans un restaurant de Géorgie. Moins paniqué, le président américain. Je pense que nous nous en sommes bien sortis, dit-il, mais il est dur de débattre face à un menteur. Voilà ce qu'il a déclaré.
Du côté de Bruxelles, les 27 chefs d'État et de gouvernement européens se sont quittés plutôt que prévu.
Ils craignaient de reproduire le scénario d'il y a 5 ans, mais rien de tout ça. Le Conseil européen s'est même offert le luxe de se terminé hier soir avec un jour d'avance grâce à un accord trouvé sur l'agenda stratégique de l'Union et de son organigramme. Julien Chavanne, vous avez suivi ce sommet à Bruxelles. Les dirigeants de l'UE ont validé ce que l'on appelle les top jobs.
Oui, fumée blanche vers 23h hier soir, ce qui reste relativement tôt pour un Conseil européen. Le trio gagnant était connu depuis plusieurs semaines. Ursula von der Leyen rempilerait à la présidence de la Commission, le Portugais Antonio Costa à la tête du Conseil européen et l'Estonienne Kaja Kallas, chef de la diplomatie de l'UE. Casting rejeté par la chef du gouvernement italien. Giorgia Meloni y voit un déni de démocratie alors que les droites radicales ont gagné du terrain aux dernières européennes.
Je considère que c'est une grave erreur. Je considère surtout cela comme un manque de respect envers les citoyens européens et le vote qu'ils ont exprimé. C'est pourquoi j'ai décidé de respecter les indications des citoyens en ne soutenant pas cette proposition.
Alors le plus dur commence pour les candidats aux top jobs. Ursula von der Leyen aura besoin d'obtenir une majorité au Parlement européen et le soutien, ou du moins la non-opposition de Giorgia Meloni pourrait être crucial.
Et lors de ce sommet, il a aussi été question des élections législatives en France.
La menace d'une cohabitation avec l'extrême droite inquiète la plupart des partenaires d'Emmanuel Macron, à l'image de l'Allemand Olaf Scholz, préoccupé par le scrutin, mais d'autres s'en réjouissent. Deux grandes choses peuvent se passer en France dimanche, a savouré le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Emmanuel Macron, lui, a balayé les risques d'une cohabitation.
Mais je ne ferai pas de politique. Je ne vais pas préempter le vote de nos compatriotes. Il est souverain. C'est ce que j'ai souhaité, c'est ce qui est nécessaire pour le pays et son avenir.
Le chef de l'État qui n'a pas hésité à attaquer le Rassemblement national, Emmanuel Macron, a déploré la parole désinhibée, le racisme ou l'antisémitisme dans le débat politique. Un président français en campagne jusqu'au bout.
Merci Julien Chavannes en direct de Bruxelles. En campagne jusqu'au bout, en campagne en tout cas jusqu'à minuit, parce qu'après ça, silence électoral avant le premier tour de ces législatives dimanche. Et hier soir, nouveau débat télévisé entre les trois principaux blocs de ces élections. C'était sur France 2, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, le Premier ministre Gabriel Attal pour le camp présidentiel et Olivier Faure pour l'alliance de gauche du Nouveau Front Populaire. Une campagne pendant laquelle, justement, Emmanuel Macron a parlé. L'antisémitisme aura été l'un des sujets majeurs et la Commission nationale consultative des droits de l'homme a publié hier son rapport 2023 sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Elle déplore une augmentation des crispations identitaires, une progression sensible de l'antisémitisme et un rejet de l'immigration aussi. Le rapport pointe également une montée d'un racisme décomplexé. Petites phrases, regard de travers, insultes, beaucoup dénoncent une libération de la parole, disons, en cette période électorale. Laurence Théo leur a donné justement la parole à ces personnes victimes de racisme.
Il est assis sur un banc, une main posée sur l'autre. Bala est guinéen et travaille dans une station essence. Il dénonce le racisme ordinaire de certains clients.
Ils me disent toujours, on est chez nous ici quand même, parce qu'il faut prépayer avant de se servir. Alors ils trouvent toujours ça anormal. Mais on est bien chez nous ici, parce que c'est un noir derrière la caisse.
Vous n'êtes pas chez vous est une insulte qui revient souvent.
Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Ou des fois, en tournant la tête, ils font un cri d'animal, quoi. Voilà. C'est terrible, c'est comme ça. Tu es un animal, tu n'es pas un être humain.
En robe d'été colorée, dans un premier temps, Maryse refuse de parler. Puis elle se ravise. Le racisme, elle connaît.
Dans le métro, il y a une personne à qui j'ai donné à soi, qui m'a dit carrément, non, je ne m'assois pas. Et quand vous rentrerez chez vous, je m'asseyerai.
Chez vous, dans votre pays?
Dans mon pays, voilà. Ça m'a fait très mal au cœur. Mais on vit ça au quotidien. Hein.
Bala hausse les épaules. Il explique que le propos raciste est devenu banal.
Les yeux dans les yeux, et puis voilà, il vous le balance facilement en rigolant.
Maryse, comme Bala, tous deux craignent un racisme exacerbé avec la montée de l'extrême droite.
Un reportage de Laurence Théo.
Trois conservateurs face à un réformateur qui pourrait bien créer la surprise, c'est l'affiche de la présidentielle en Iran.
Un premier tour aujourd'hui, le deuxième vendredi prochain, si besoin d'un second tour. D'ailleurs, ça n'a été le cas qu'une seule fois depuis l'avènement de la République islamique. En tout cas, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a un petit peu moins de deux heures maintenant pour trouver un successeur à Ebrahim Raisi, tué dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Les résultats officiels sont attendus au plus tard dimanche pour ce scrutin, le deuxième déjà depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a fait trembler l'Iran et qui a laissé des traces aussi ce matin. Parole d'Iranien installé en France avec Oriane Verdier.
C'est à la terrasse d'un café parisien que nous retrouvons Aïda Tavakoli, présidente de l'association We Are Iranian Students, formée au moment du mouvement Femmes Vie Liberté pour défendre les droits des étudiants iraniens. L'association a signé un appel au boycott avec d'autres étudiants en Iran et à l'international.
Les étudiants ont rappelé que le candidat réformiste Pezeshkian avait un passé de rôle dans les répressions, notamment des mouvements étudiants, ce qui est le cas en fait de tous les candidats. On n'a pas de forme démocratique en Iran, on a vraiment une forme dictatoriale totalitaire, donc le vote n'a pas de sens.
Si Aïda n'ira pas voter, elle reste très mobilisée pour participer à une évolution de l'Iran vers la démocratie.
Toute l'action de la diaspora, c'est d'une part de faire de la lumière et d'autre part d'amener nos régimes démocratiques, nos gouvernements démocratiques, à sanctionner le régime islamique de manière à ce que l'appareil répressif soit affaibli et que l'espace d'expression de la population iranienne soit enfin libéré.
Aïda le reconnaît, avec l'affaiblissement du mouvement Femmes Vie Liberté et le début de la guerre à Gaza, il est devenu bien plus compliqué d'attirer l'attention des acteurs politiques occidentaux sur la réalité que vit la population iranienne.
Oriane Verdier. C'est fait en Argentine. Le Parlement a définitivement approuvé cette nuit le vaste programme de réformes ultralibérales voulu par le président Javier Milei. L'aboutissement de plusieurs mois de débats pour aboutir à une version très remaniée. En Afrique du Sud, alors que l'annonce d'un gouvernement d'union nationale se fait attendre depuis la reconduction de Cyril Ramaphosa à la présidence, l'organisation d'un dialogue national prend forme. Un dialogue appelé initialement de ses voeux par l'ancien président Thabo Mbeki, mais plusieurs fondations y sont désormais favorables. Elles représentent d'importantes figures sud-africaines et elles ont jeté les bases et les enjeux d'un tel dialogue national pour le bien du pays, face au risque, selon elles, de désunion et un paysage politique fragmenté. À Johannesburg, correspondance de Romain Chanson.
Abstention record, électeurs tentés par le vote identitaire, montée de la xénophobie. Ce contexte mérite un dialogue national, selon Lindy Wegad, pour la fondation Chief Albert Lutuli.
C'est une initiative très importante à un moment critique de notre histoire. Nous avons une tradition de dialogue dans ce pays, en particulier quand nous sommes dans une période de transition.
La transition politique est en cours. Le gouvernement d'union nationale n'a toujours pas été annoncé une semaine après l'investiture du président Cyril Ramaphosa, signe de tension en coulisses. Des discussions qui échappent à un électorat qui se sent déjà à l'écart, alerte Géraldine Fraser-Moleketi pour la fondation Thabo Mbeki.
Nous devons mobiliser les gens pour s'assurer qu'ils se sentent acteurs dans l'élaboration d'un futur commun pour notre pays. Notre objectif principal est aussi de créer de la cohésion nationale.
Cette initiative a reçu le soutien du chef de l'État, mais elle a aussi été critiquée par des personnalités questionnant la légitimité des organisateurs ou le bien fondé d'une introspection nationale au motif que le parti au pouvoir depuis 30 ans a perdu sa majorité. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Et puis Gaëtan, leur passage au Transmusical de Rennes avait fait sensation l'an dernier.
Et cette fois, c'est à Bordeaux que les Bantu Spaceship tenteront de faire danser ce soir. Ça ne devrait pas être trop dur, hein, grâce à leur album, le premier éponyme, qui porte les sonorités d'un renouveau musical au Zimbabwe, leur pays d'origine. José Marinho.
Dès l'indépendance du Zimbabwe en 1980, les musiciens locaux combinent rythmes traditionnels et sonorités occidentales pour créer des styles expérimentaux. Le groupe Bantu Spaceship, fondé en 2018, se nourrit de cette impulsion créative et traduit cette période musicale exceptionnelle dans un genre hybride baptisé la New Jet Wave. Dans ce disque, ce jeune collectif africain intègre des musiques emblématiques du Zimbabwe telles que le Jit Jive, le Sungura et aussi le Chimurenga, mélodie de résistance des années 70. À ses sons anciens, il injecte des touches modernes d'électro, new wave et hip-hop. Résultat, 10 morceaux afro-futuristes portés par un chant poétique et spirituel en langue débélé. Avec ce premier album, l'équipage visionnaire de Bantu Spaceship place en orbite avec succès la musique alternative du Zimbabwe.
Et rendez-vous à Bordeaux ce soir, c'était José Marigny.
Merci Gaëtan Plenet. 8h13 à Paris, RFI Matin. La suite, dans quelques minutes, notre invité. Ultime tentative d'analyse et de prospective à quelques heures de la fin de la campagne pour le premier tour des législatives en France. Le démographe et historien Hervé Lebras, expert du vote RN, est avec nous. Mais tout de suite, les sports. Avec vous, Victor Missistrano, on démarre par le basket et cette grande première dans l'histoire de la NBA.
Un père et son fils dans la même équipe, et pas n'importe qui, LeBron James en rêvait. À 39 ans, la star des Los Angeles Lakers va accueillir son fils, Bronny, 19 ans. Le club l'a sélectionné en 55e position de la draft. La cérémonie porte d'entrée des nouveaux talents dans la Ligue américaine, dont la deuxième partie avait lieu la nuit dernière. En attendant la saison prochaine, LeBron James va disputer les Jeux Olympiques avec les États-Unis.
Les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France, finaliste en titre.
Oui, les Bleus sont réunis depuis plusieurs jours, mais la préparation a officiellement débuté hier, à un mois, jour pour jour, de leur entrée en lice au JO. Victor Wembanyama et sa bande qui viseront l'or à domicile. Il faudra pour cela se relever du fiasco du Mondial de l'an dernier, conclu par une élimination précoce. Pour cela, Nicolas Batum et ses coéquipiers font ce qu'il faut, comme l'explique le capitaine.
La concentration est différente, la préparation est un peu différente. On sent dans le travail depuis le début. Voilà, on sent dans le travail depuis le début, ça pousse, ça travaille. ça se cherche, ça, pour le bien du collectif également, donc il n'y a pas de secret. Il n'y a que comme ça, si on veut y arriver, et que quand ça passe par là, une très très bonne préparation, c'est ce qu'on est en train de faire. Le problème aux Jeux Olympiques, c'est que y a 11 autres équipes qui sont très très fortes, qui veulent la même chose. Donc à nous de se préparer et de ne pas regarder ailleurs. C'est ce que je suis en train d'expliquer moi quand on me demande ce que je pense. Moi, pour l'instant, mon but c'est d'être prêt le 27 juillet 17h15 pour l'instant. Et ce qui va être plus important pour nous.
Nicolas Batum, qui, comme LeBron James, prendra sa retraite internationale, Julien, à l'issue de ces Jeux.
Il reste encore des grands événements avant ces JO. On est à la veille du grand départ du Tour de France.
Les coureurs cyclistes s'apprêtent à s'élancer depuis Florence, en Italie, où le peloton passera trois jours. Les deux premières étapes s'annoncent difficiles, avec déjà plusieurs ascensions. Ça commence fort. L'occasion d'avoir une première réponse aux doutes sur le double vainqueur sortant, Jonas Vingegaard. Pourra-t-il répondre aux attaques de son grand rival Tadej Pogacar, trois mois seulement après une grave chute et sans avoir couru depuis. Julien Jurdi, directeur sportif de l'équipe française AG2R Décathlon, se montre pessimiste pour le Danois.
Je suppose, j'imagine que si son équipe, qui est très professionnelle, vise mal, le met au départ, c'est qu'ils ont des datas et des retours très favorables de la part de Vingegaard. De là à se mêler à la bagarre du maillot jaune, je sais pas, j'irai sûrement une montée en puissance. Si on sait que les 10 derniers jours du Tour de France sont vraiment très difficiles, avec beaucoup d'arrivées au sommet dans les Pyrénées et dans les Alpes du Sud ensuite, c'est clair que s'il est au départ du Tour, il est pas à 80%, il se rapproche du 90%. Est-ce que ça sera suffisant pour mener la vie dure à Pogacar? J'en suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'attends à une belle bataille dès samedi et dimanche de la part de Poggi, qui va sûrement pas faire respirer Vingegaard d'ici Nice.
Propos recueillis par Thomas de Saint-Léger. Nice, dans le sud de la France, lieu inhabituel de l'arrivée du Tour en raison des JO. Autre lieu inhabituel, celui de la finale du championnat de France de rugby. C'est ce soir, 19h05, temps universel, entre Bordeaux-Bègles et Toulouse, tenant du titre. L'équipe d'Antoine Dupont qui se tournera ensuite vers les JO avec l'équipe de France de rugby à 7.
Et ces Jeux auxquels le sprinter Christophe Lemaître ne participera pas.
Oui, après une énième blessure, l'ancien recordman de France du 100 mètres prend sa retraite.
Merci Victor Missistrano. Aujourd'hui l'économie, bonjour Agnieszka Kumor.
Bonjour.
Alors que la campagne céréalière se termine en Ukraine, le pays tente de pallier les problèmes dont pâtit son secteur agricole. Une situation de plus en plus préoccupante, cultures détruites, machines endommagées, bétail décimé, tout cela engendre des baisses de revenus pour les agriculteurs, Agnieszka. C'est ce que disent la Banque mondiale et l'école d'économie de Kiev dans un rapport très détaillé.
Plus de deux ans après le début du conflit, les pertes et les dommages subis par le secteur agricole en Ukraine s'élèvent à 80,1 milliards de dollars. Une large partie du montant, 69,8 milliards, ce sont les chutes de revenus causées par les pertes de production, la baisse des prix des matières premières agricoles et la hausse des coûts. Ces pertes ont doublé depuis l'évaluation précédente en 2023. Ajoutez à cela des dizaines de milliers d'hectares de cultures qui se situe désormais sur les territoires sous occupation russe, sans compter les dommages causés au cheptel qui provoquent déjà une baisse de la production de viande et de lait.
La facture s'alourdit avec les destructions au sol.
Le coût des biens détruits est estimé à 10,3 milliards de dollars. La catégorie la plus importante est celle des machines agricoles, tracteurs, moissonneuses, batteuses, semoirs détruits, endommagés ou volés, tout comme les infrastructures de stockage de grains ou les équipements de fermes d'élevage ou de fermes laitières situées dans les zones bombardées qui ont subi le même sort. Les régions agricoles les plus touchées sont Zaporijia dans le sud-est, Kherson dans le sud ou encore Luhansk dans l'est du pays.
Il faut ajouter à cela les dégâts dans la pêche et l'aquaculture.
Ici, la facture a triplé depuis l'an dernier à cause notamment de l'explosion du barrage de Kakhovka en juin 2023, la destruction de ce grand barrage construit sur le fleuve Dniepr a été un désastre écologique selon un rapport d'une ONG ukrainienne Truth Hounds. L'immense réservoir d'eau vidé en quelques jours constituait une importante source d'approvisionnement en eau pour les industries et pour l'agriculture. En plus de la perte pour le secteur de la pêche, ce sont aussi les champs qui ont été privés d'irrigation.
Et Agnieszka, les besoins pour reconstruire sont immenses.
Selon la Banque mondiale et l'école d'économie de Kiev, 56,1 milliards de dollars seront nécessaires sur les 10 prochaines années pour rebâtir l'agriculture ukrainienne. Ce montant comprend le remplacement des biens détruits et le soutien pour redresser la production sur le long terme. Mardi, l'Ukraine a officiellement débuté les négociations pour intégrer l'UE, l'avenir de son secteur agricole qui modifiera les équilibres communautaires sera au cœur des négociations.
Agnieszka Kumor pour aujourd'hui l'économie, merci beaucoup. 8h20 à Paris, en France plus que quelques heures maintenant avant le silence électoral. La fin de la campagne express pour les législatives anticipées avant le premier tour dimanche, 3 semaines jour pour jour après les élections européennes et la dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron. Le Rassemblement National victorieux le 9 juin reste aujourd'hui largement en tête des sondages. Cartographie, analyse et prospective électorale ce matin avec notre invité. Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RFI. Vous êtes démographe et historien. Vous analysez depuis longtemps les votes pour l'ancien Front National et vous dites que vous n'avez jamais été inquiet jusqu'ici. Vous l'êtes aujourd'hui pour la première fois.
Oui, le risque est très grand que le Front National est le Rassemblement National et une majorité de députés à l'issue du second tour. La seule chose qu'on peut voir clairement, c'est le premier tour. Et je dois dire, je suis assez étonné que le président et son gouvernement n'aient pas anticipé, parce que quand un vote a lieu, surtout un vote qui a une certaine dynamique comme celui des européennes, cette dynamique se poursuit. C'est naturellement, il y a pas en 3 semaines, on ne peut pas attendre un retournement de l'opinion, sauf s'il y a un événement grave. Alors, il n'y a pas eu d'événement grave à part ces européennes. Donc, il est assez simple, et c'est ce que j'ai fait, que j'ai publié dans l'hebdomadaire 01. Il est assez simple de reprendre la structure dans chaque circonscription, la structure aux européennes, et puis de l'ajuster aux résultats les plus récents des sondages, qui bougent pas tellement. Par exemple, ça veut dire qu'on remonte partout de 31,5 à 36% des voix proportionnellement les votes RN, qu'on remonte aussi les votes pour les gouvernementaux de 14,5 à 20. En fait, j'ai même mis à 20,5. Et puis on regarde, et la figure qui s'en dégage est quand même assez inquiétante, puisque de cette manière-là, le RN est en tête dans 364 circonscriptions.
Au premier tour.
Au premier tour. C'est le premier tour.
Oui.
Et la gauche est en tête, le front de gauche, dans 175 circonscriptions. Et ensemble, dans 11 circonscriptions en tête. Donc, il y a un second tour. Mais même pour le second tour, la droite et puis la droite non RN et puis ensemble partent pas en bonne position. C'est-à-dire qu'ils sont très souvent, s'il y a des triangulaires, ils sont beaucoup plus souvent en troisième position qu'en seconde.
Et souvent qualifiés avec un seuil très très
oui,
mince.
Oui, c'est très c'est pour ça que donner le nombre de triangulaires est presque impossible, parce que tout tourne autour de... Il faut avoir 20% à peu près pour les...
Ouais. Que nous apprend la carte des élections européennes sur la progression du RN aujourd'hui?
Ben, la progression a été pratiquement homogène, elle est entre les législatives de 2022. Surtout, je pense, le bon calage pour les européennes, c'est le premier tour de la présidentielle. Et là, vous avez une montée de... On passe de 23,5% à 31,5%, donc une montée de 8 points. Mais ce qui est a priori paradoxal, c'est que la montée est nettement plus forte là où le RN était déjà très fort, c'est-à-dire dans le Nord-Est.
C'est-à-dire plus il est fort quelque part, plus il monte encore.
Alors, c'est pas non plus énorme les différences, mais par exemple, pour la Bretagne, la montée est de l'ordre de 6%, mais pour Nord-Pas-de-Calais, elle est de l'ordre de 9,5%. Donc, là où il était fort, il est devenu extrêmement fort. La Haute-Marne aussi est un très bon exemple. On trouve des villages maintenant qui votent à 65-70%.
Mais il y a un paradoxe assez important dans ces résultats du RN, dans ces tendances, ces résultats pour un parti qui concentre une grande part de son discours sur l'immigration et la sécurité. On voit que les scores les plus écrasants en faveur du RN sont dans les petites villes et les zones rurales, là où l'immigration est faible, voire inexistante et là où l'insécurité n'est pas vraiment un sujet. Comment l'expliquer ?
C'est un constat, mais vous avez raison. J'ai fait un livre il y a 2 ans sur cette question qui n'est pas propre à la France. J'ai fait un livre en regardant localement les votes d'extrême droite et la proportion d'immigrés ou d'étrangers. Mmh. Et quels que soient les pays qui nous entourent, c'est la même chose. C'est-à-dire, par exemple, en Suisse, c'est les cantons centraux, ces vieux cantons Uri, Schwitz, Unterwald, où il n'y a pratiquement pas d'immigrés qui votent à fond pour l'UDC, qui est le parti proche de l'extrême droite, de Blücher. Inversement, Zurich, Genève votent très peu pour Blücher. En Allemagne, c'est l'Allemagne de l'Ouest où sont les immigrés, c'est l'Allemagne de l'Est où l'AfD fait des gros scores. Quand on fait la carte, c'est frappant, c'est l'ancienne Allemagne de l'Est.
Mais on arrive à expliquer pourquoi cet écart entre l'exposition et les...
C'est très difficile, mais pour la France, je pense que... on a très souvent parlé d'une rupture du lien social, mais je crois qu'on n'a pas assez parlé d'une rupture du lien territorial. Mmh. Et en France, ce lien territorial a été rompu avec l'arrivée de Macron au pouvoir. Un cas très remarquable, c'est la suppression de la taxe d'habitation. C'était essentiel pour les petites communes parce que ça leur permettait d'avoir des décisions locales. Maintenant, elles sont obligées de le quémander pour avoir une compensation. C'est tout à fait... différents. Même chose au niveau des départements. On avait un tissu, si vous voulez, politique qui répondait à la centralisation. Il y avait les maires qui avaient une certaine liberté d'action, qui était respectée. Puis ensuite, vous aviez les départements, les anciens conseils généraux. Puis on remontait les députés, puis on arrivait en haut. Le macronisme a cassé ça. D'ailleurs, c'est remarquable que Macron dit, voilà, je m'adresse au peuple directement, comme s'il n'y avait pas de corps intermédiaire. Et cette suppression des corps intermédiaires, puis ça va plus largement, y compris l'avis des syndicats, je pense, a créé un très grand sentiment de frustration dans les zones qui sont éloignées du pouvoir central.
Avec le suspense du second tour, les triangulaires qui se profilent, on voit apparaître le concept américain de swing circo, de circonscription clé. Que faudra-t-il regarder ? Où faudra-t-il regarder sur la carte au soir du premier tour pour commencer à anticiper le second ?
Alors, il va falloir regarder la France de l'Ouest et du Sud-Ouest, parce que c'est là que les changements peuvent se produire, qui vont tenir d'ailleurs au report. Mais je suis assez sceptique sur les reports, étant donné la forme qu'a prise la campagne. Les reports sont dictés beaucoup plus largement, cette fois-là, par du conjoncturel, par la manière dont se passe la campagne. Et les attaques de Ensemble et du gouvernement contre la gauche vont sans doute rendre difficiles les rapports de gauche, là où il serait nécessaire pour que Ensemble aide des députés.
De là à dire que le signe égal mis par la majorité entre le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National a contribué, contribuera au score de l'extrême droite au soir du second tour.
Oui, je pense très nettement, parce que beaucoup d'électeurs bons, qui est des électeurs extrémistes, pas simplement des électeurs, qui est des candidats extrêmes à LFI, pas tous, mais un certain nombre, oui, bien sûr, mais là, maintenant, clairement, la masse du front... du nouveau Front Populaire, il y a quand même les écologistes, il y a quand même les socialistes qui, avec Glucksmann, ont fait un bon score. Donc c'est eux qui représentent la majorité. Ils auront très mal supporté d'être traités d'antisémites et de choses comme ça. Là, ça va pas, si vous voulez.
Il nous reste une minute, Hervé Lebras. On voit que plus le RN est implanté localement, plus il grimpe. Même si le parti n'obtient pas la majorité le 7 juillet, il aura beaucoup plus de députés, plus de 200 probablement. Ça va amplifier inévitablement la dynamique RN pour 2027.
C'est pas forcé, parce que là, c'est un horizon trop lointain. Il est possible, c'est d'ailleurs, je crois, l'espoir, le dernier espoir qui est nourri au gouvernement, c'est qu'il se montre peu capable de gérer la France. Il faut se méfier, parce que l'expérience de l'Italie est là pour nous montrer que, deux choses, pour nous montrer que, un, le RN, comme Meloni, peut se débrouiller, mais surtout, deux, il faut bien voir que les partis d'extrême droite, quand ils prennent le pouvoir, ils le prennent vraiment. C'est-à-dire, ils cherchent à éliminer les cours suprêmes, donc merci. Le Conseil constitutionnel, ils merci mettent Hervé leurs hommes à la télévision, etc.
Merci Hervé Lebras, hélas, le temps nous manque. Historien, démographe, invité d'RFI Matin, très bonne journée.
Très bonne journée.
Le goût du monde, Clémence Denavy. Partager un repas, accepter de s'asseoir pour un premier thé, ce sont des gestes universels, des premiers gestes vers l'autre, assortis des histoires qui donnent leur sens à la nourriture partagée. Que raconte le père à l'enfant qu'il nourrit? Quelle culture dans une fourchette, une baguette, une main? Le goût, le sens des autres, ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence Denavy sur RFI.
Les élections législatives françaises sur RFI.
Après la dissolution de l'Assemblée nationale française, le premier tour des élections législatives anticipées s'annonce comme un scrutin décisif. Retrouvez ce dimanche dès 18h TU les résultats et nos analyses avec toute la rédaction mobilisée pour vous informer. Nos journalistes politiques seront sur le terrain pour vous proposer des éditions spéciales à la radio et en numérique et vous faire découvrir les premières réactions en France et à l'international. Les élections législatives françaises, ce dimanche sur RFI et RFI.fr.